Comment la vie est-elle apparue sur Terre?
On peut envoyer actuellement des signaux à 100 millions de kilomètres.
Les scientifiques repoussent encore les limites du possible.
Il n'y a rien qui soit pérenne dans le temps. Tout est d'ordre chaotique, mais ça peut être des chaos sur des échelles de temps de l'année, du million d'années, du milliard d'années. Ce qui compte, c'est le temps qu'il faut pour que les choses dérivent.
Tout ce qu'ils veulent, c'est faire des chiffres. Ils n'ont rien à foutre qu'on détruise le fond des océans.
So, I had an idea.
Le siècle des ampoules.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du siècle des ampoules. Alors de 2016 à 2022, le nombre d'articles scientifiques publiés dans le monde est passé d'environ 1,9 million par an à 2,8 millions, soit une augmentation de 47% selon une étude collective internationale publiée en octobre 2023 par l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Alors bonne nouvelle pour la science ou symptôme d'un monde scientifique sous pression, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invité du jour, André Fufza. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
Bonjour Thomas, merci beaucoup à vous de m'accueillir.
Alors André Fufza, vous êtes professeur à l'université de Namur, où vous enseignez notamment la cosmologie et la gravitation relativiste. Vous êtes également l'auteur de plusieurs livres, dont le dernier en date à l'appel des étoiles, publié aux éditions Publish Room Factory en 2022. Alors vous avez travaillé notamment sur le fameux télescope Euclide de l'ESA qui vise à répondre à des questions fondamentales de la physique et de la cosmologie moderne, comme qu'est-ce que l'énergie sombre et la matière noire. Mais peut-être dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous en êtes venu à vous passionner pour les sciences et la cosmologie plus en particulier ?
En fait, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit et j'ai une chance exceptionnelle de pouvoir faire ma passion comme métier. Donc, tout gamin, j'ai, comme beaucoup d'autres, été émerveillé devant le ciel, etc. Eu un petit télescope, passé par les bouquins d'Hubert Reeves, beaucoup rêvé, beaucoup apprendre. Et puis, en grandissant, voilà, avec mon côté hongrois, je suis un peu plus versé dans les mathématiques que dans l'expérimental. Et donc, j'étais naturellement attiré. Je suis rentré dans ce métier d'astrophysicien via la théorie et via la cosmologie, la relativité générale, sans abandonner pour autant tout ce qui était astronomie amateur, l'observation. J'adore toujours observer le ciel, ça me fait toujours le même effet. Et maintenant, je partage cette passion avec mes étudiantes et mes étudiants à l'observatoire pédagogique que j'ai réinstallé. Donc voilà, c'est un parcours où j'ai dû suivre les critères de la science pour faire carrière, etc., où j'ai eu beaucoup de chance aussi, ce qui n'est pas qu'une question de compétence, c'est une question de chance. Bref, au final, je trouve que c'est un métier formidable. Je suis un chanceux de pouvoir faire cette passion comme métier, de pouvoir la transmettre. Maintenant, cette chance, c'est aussi une responsabilité, un devoir, de pouvoir partager les connaissances qui sont acquises, partager le parcours de vie et permettre à d'autres de pouvoir s'émerveiller, en apprendre plus sur le cosmos et sur eux-mêmes. Donc, voilà, pour le parcours en rêve devenu réalité, et que je ne regrette pas, même si les conditions pour le rêve ne sont pas toujours celles qui correspondent à mes valeurs.
Et vous mentionnez ces critères du monde scientifique que vous avez dû suivre et dont il sera question aujourd'hui dans cette émission. Alors le 19 janvier, vous répondiez à une interview du média scientifique belge Daily Science dans laquelle vous déploriez une marchandisation de la science. Alors un constat peut-être pas nouveau, mais qui semble aller dans le même sens que cette étude internationale mentionnée en introduction, qui dénonce, elle, les pratiques de certains géants de l'édition scientifique qui participent, si pas ne créent, ces conditions que vous dénoncez.
Oui, tout à fait. Écoutez, j'ai commencé mes études universitaires en 1996, fait mon doctorat de 2000 à 2004, donc j'ai quand même une bonne vingtaine d'années d'expérience scientifique derrière moi. J'ai pu voir les choses évoluer, et puis vous prenez le pouls, étant dedans, d'abord subissant le système, quand vous attendez à avoir un poste permanent, puis artisan du système, parce que ben voilà, étant professeur, j'encadre des thèses de doctorat, on fait de son mieux, etc., mais on fait partie du système, on est dans les commissions, donc on voit évoluer les choses, il y a des choses qu'on refuse, parce que déontologiquement, ben, ça nous heurte, etc., il y a des choses qu'on boycotte, il y a des choses qu'on essaie de faire évoluer, c'est pas évident, donc oui, tous ces éléments-là sur la marchandisation de la science, je les ai vus vraiment évoluer et s'empirer autour de ces 25 années de carrière, comme j'ai vu de plus en plus de gens en être déçus, brisés, et maintenant, de plus en plus, sur ces dernières années, le refuser, particulièrement chez les jeunes. Refuser, non pas la science en tant que telle, c'est-à-dire l'activité de questionnement, c'est ce que les gens recherchent, en fait, fondamentalement. Je pense que dans l'ensemble, en tout cas, les gens que j'ai rencontrés dans mon domaine en cosmologie, c'est vraiment pour répondre à des questions profondes. Et puis, ils se heurtent à cette pression de la performance, de la production, qui, en fait, sert un business, le business de la marchandisation de la connaissance. Et donc, je ne veux pas non plus... Enfin, je ne veux pas passer pour un communiste ou un bolchevique, ce que je ne suis pas. Mais donc, je pense qu'effectivement, il peut y avoir des intérêts à valoriser la science, mais ça dépend ce qu'on entend par valorisation. Il n'y a pas que de la valorisation financière. La science, c'est d'abord l'acquisition, enfin, le développement de l'être humain et des connaissances. Puis après, il faut voir comment on le valorise pour la société. Ce n'est pas uniquement que financière. Mais là, je dois vous dire que, pour le moment, et depuis ces dernières années, c'est devenu tel que je n'y crois plus. On a confondu la fin et les moyens, et on est vraiment sur une optique mercantile, oui, de plus en plus.
Et si on s'attarde sur cette question de l'édition scientifique, est-ce qu'on a une idée de quand cette dynamique est devenue problématique ? Parce que finalement, la recherche scientifique marche un peu main dans la main, ou dépend, hein, depuis le XVIIe siècle, des revues scientifiques, hein, pour être diffusées.
Thomas, c'est une question difficile. J'ai pas prétention d'avoir regardé le problème profondément. Il faudra aller chercher quelqu'un qui étudie ça et dont c'est la spécialité. Moi, j'ai quand même le sentiment... Alors, il y a toujours eu un poids des maisons d'édition, etc., ou des sociétés scientifiques au 19e siècle, au 20e siècle. Il y a toujours eu cette tendance à vouloir... cette tendance à l'impérialisme, en fait. Alors, je vais bien me faire comprendre. Par impérialisme, c'est le jeu d'influence des puissants, hein. Et donc ça, c'est indépendant de toute idéologie politique, la gauche, la droite, tout ce que tu veux, peut-être même l'écologie, si elle pêche par certains endroits là-dessus. Il y a cet enjeu d'influence auquel la science, en fait, dans laquelle la science se retrouve embrigadée. C'était les champions scientifiques du 17e, 18e siècle, comme Euler, par exemple, hein. Euler ou Descartes, hein, qui est même passé par la cour de Russie à l'époque. Il y a toujours les penseurs et les penseuses se sont mis, ont dû se mettre sous la protection des puissants, même déjà depuis l'Antiquité, avec l'exemple d'Archimède qui fabriquait des armes pour des armes de siège pour le tyran de Syracuse. Et puis, bon, voilà, maintenant le bras protecteur de la science, en fait, est en train de basculer de l'État vers le privé. Je pense que c'est ça qu'on est en train de voir, en fait. Dans tout le 20e, depuis le 17e siècle, 18e siècle, pardon, c'était la science d'État, la science laïcisée, issue des Lumières, et donc, par exemple, avec des institutions nationales comme les observatoires, je pense à l'Observatoire de Paris, par exemple, où j'ai fait mon post-doc. Et puis, ça a été les universités d'État au 20e siècle, etc. Et maintenant, je pense que l'évolution, elle est claire avec le retrait du financement du public, et c'est présent dans plusieurs pays, on y arrive en Belgique aussi, c'est en fait une privatisation. Et alors que la science, elle le subit, elle sert aussi ce pouvoir politique, parce que la science, a priori, n'est pas que moteur de technologie, elle est moteur de connaissance, donc elle est un peu embrigadée dans le système, donc elle fait ce qu'elle peut. Les gens ne sont pas toujours de mauvaise volonté, hein, mais elle se retrouve à devoir... avancer, faire avec. Voilà, alors si tu veux un peu revenir en arrière, moi ce qui m'a m'a frappé dans ma carrière, c'est quand j'étais étudiant dans les années 90, je peux dire 90 hein, en Belgique, je veux dire 90. Donc ce qui m'a frappé dans les années 90, ça démarrait vraiment, c'est que on a vu le poids des grands groupes d'édition scientifique, enfin, les revues existaient déjà, etc. Mais on a vu comment ces indicateurs arrivaient et devenir vraiment incontournables pour tout qui voulait faire une carrière scientifique. Et donc des indicateurs à la mode, je crois que je dois en avoir connu 3 ou 4 sur ma carrière, mais ça m'a vite dégoûté. Donc je suis ça de loin, ça fait partie des choses que je refuse. Mais on peut parler du facteur d'impact, puis on t'a inventé l'indice H, enfin le H index, on en a inventé toute une série, ça continue maintenant, le taux de citation, on en a inventé toute une série diverses et variées, avec toujours en fait quand un indicateur saturait parce que les gens avaient fait de l'ingénierie bibliométrique et s'étaient infiltrés dans le système, on changeait les règles du jeu. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est en fait, je pense, l'avènement de la knowledge economy, donc l'économie de la connaissance, où on a vraiment voulu valoriser la production scientifique en termes d'articles que tu vends. Et donc ça, je l'ai vu dans les années 90, et puis ça s'est vraiment accentué. Il faut savoir, par exemple, que dans la crise de 2008, la crise des subprimes, les seuls fonds de pension américains qui ne sont pas pétés la tronche comprenaient pas mal d'éditions scientifiques, et d'éditions larges, au sens large. Donc, en fait, c'est une valeur sûre. Le business model, il faut le dénoncer, parce qu'il faut bien voir que ce business model, par exemple, c'est absolument édifiant quand vous n'êtes pas dedans. Enfin, il faut que les gens s'en rendent compte. Moi, comme scientifique, alors je l'ai vu sur ma carrière, je vais donner un exemple. Quand j'étais gamin, quand j'étais en thèse, etc., quand tu publiais un article, tu avais une version papier de l'article. Moi, je suis un peu vieux, hein, je suis désolé, on avait une version papier de l'article. Ça, c'était les tout premiers articles. Puis très vite, tu avais accès à une version PDF de l'article, donc une version électronique de l'article. Bon, c'était sous couvert de l'écologie, etc., économiser le papier, c'était très bien. Mais en fait, non, c'était surtout aussi une raison d'économiser les coûts. Et puis, il y a une bonne dizaine d'années, tu n'avais même plus accès. Tu publiais un article, tu n'avais même, on te donnait rien. Tu devais aller le chercher toi-même. L'article que tu avais toi-même publié, tu devais le chercher toi-même. Donc ça veut dire qu'il fallait avoir un abonnement, techniquement. Parce que moi, par exemple, je suis retrouvé envoyé à des co-auteurs en Afrique. J'étais téléchargé l'article où l'abonnement était payé par l'université pour qu'ils puissent avoir un fichier PDF de leur article pour lequel ils ont travaillé. Et puis maintenant, on se retrouve avec un système où tu dois, où même si ton article est accepté, tu dois payer pour le publier. Parfois payer pour le publier en open access, donc ça, alors à ce moment-là, il est en accès libre pour tout le monde, mais il y a des endroits où tu payes pour publier et les chercheurs payent pour le voir. Et donc, en fait, tout le monde paye 2 fois. Et donc, en fait, au final, ben, l'argent, il rentre, c'est de l'argent public, hein, tout ça, qui rentre dans les mains des grands éditeurs, parce que c'est pas autre chose. Les États vont payer les chercheurs pour produire des articles scientifiques, et les chercheurs et les chercheuses ont intérêt à en produire, sinon ils n'ont plus de poste. Et puis, dans un autre côté, les chercheuses et les chercheurs payent pour lire les articles des autres. C'est le casino, hein. La banque gagne toujours.
Ouais. D'ailleurs, en préparant cette émission, j'ai lu le président de l'École polytechnique de Lausanne, Martin Vetterli, qui disait que les contribuables payent 3 fois, en fait, même pour chaque article scientifique. D'abord, en rémunérant le chercheur qui fait les expériences, ensuite en s'acquittant des frais d'abonnement en revue, et parfois encore une 3e fois, une fois pour offrir un libre accès au contenu de l'article. Alors, peut-être aujourd'hui, concrètement, c'est quoi les attentes qui pèsent hein, sur un chercheur aujourd'hui en termes de publication, et qu'est-ce qui est exactement problématique selon vous ?
Écoute, on a encore de la chance, c'est relativement variable suivant les endroits où tu travailles et suivant le degré dans ta carrière. Donc, je peux parler de ma propre expérience, mais là aussi, je pense que je suis chanceux dans l'université où je suis, puis je te dirai un peu ce que j'entends des autres collègues. Donc, à l'université de Namur où je suis, je pense qu'on fait partie des chanceux. J'ai une totale liberté de choisir mes sujets de recherche. Il y a évidemment des critères éthiques. Hein. Si je commence à fabriquer des armes, on va me demander si j'ai pas pété une durite. Mais voilà, je peux aller m'intéresser, par exemple, à des sujets comme le voyage interstellaire, des choses comme ça. Je n'ai pas d'exigence de publication. Il y a une pression sociale, bien entendu, mais je n'ai pas d'exigence contractuelle de publication, comme ça peut se trouver par ailleurs. Et donc, par ailleurs, j'ai des collègues où, qui sont tenus par contrat. Alors, je vais corriger un petit peu. Quand tu arrives en poste, avant d'avoir un poste permanent, tu signes quand même ce qu'on appelle un contrat académique durant ta période d'essai, où tu mets dans ce contrat ce que tu vas réaliser dans le cadre de tes trois missions, enseignement, recherche, service. Et souvent, dans la recherche, ben, on s'engage à faire autant de papiers. Ça dépend des départements, ça dépend des personnes, ça dépend des disciplines. Bon, j'ai dû le faire à Namur, là où j'étais. C'était un contrat qu'on faisait vraiment en bonne intelligence avec le directeur du département de l'époque. Ça ne m'a pas semblé pesant parce que c'était vraiment un rythme normal de publication. Je n'ai pas dû forcer, c'était normal. Je pense que je m'étais engagé à faire un article par an, ce qui était tout à fait raisonnable et dans ma production de l'époque, etc. Bien, par contre, ça ne se passe pas partout comme ça de la même manière. Et bon, moi, je suis quand même en poste depuis 15 ans maintenant, et ces critères-là se sont accentués. Donc maintenant, par exemple, dans certaines universités, on va te demander un nombre de publications, mais aussi une sélection de journaux dans lesquels tu dois publier. Des journaux bien reconnus, bien ancrés, etc. Et donc, ça sera peut-être deux articles dans un journal moins bien classé, ou un article dans un journal top, ou des choses comme ça. Et donc, tu as un cahier de charge comme ça, auquel remplir. Pour avoir accès à un poste permanent, ou pour avoir des promotions donc, dans la carrière. Donc, cette pression, on l'organise tout au long de la carrière. Tu la rencontres dès le master, donc dès que tu es étudiante ou étudiant à l'université et que tu commences un travail de mémoire, on te dit déjà, et malheureusement, je dois parfois le dire aussi à mes étudiants, écoutez, malheureusement, dans le système où on est, si vous voulez une bourse de doctorat, dès le bachelier, dès les premières années, il faut faire des grades. Et puis, quand vous rentrez en master, si vous voulez une thèse de doctorat, malheureusement, je constate qu'il faut que vous publiez et que vous participiez à des publications. Et donc, très très vite, tu as cette pression. Et puis, elle ne te quitte pas, parce qu'après, tu passes après ta thèse de doctorat, il y a pression pendant la thèse de doctorat, pendant les séjours postdoctoraux successifs, et il y en a de plus en plus des séjours postdoctoraux. Et puis, quand tu rentres comme permanent, tu te dis, je suis enfin libéré, eh bien, ce n'est pas toujours vrai, ça dépend où. Moi, je trouve que là aussi, je suis encore relativement chanceux dans l'université où je travaille, mais voilà, dans certains autres endroits, ce n'est pas comme ça. Il y a vraiment une pression qui est très forte, ce qu'on appelle les tenure track, par exemple, où c'est 5 ans, tu as 5 ans pour faire tes preuves, et après le financement n'est pas assuré, tu dois t'autofinancer en allant chercher des contrats publics, privés ou des choses comme ça, etc. Et tu dois, voilà, tu as un cahier de charge qui est très lourd, et donc tu continues toute ta carrière comme ça sur la pression jusqu'à ce que tu sois jeté, en fait.
Nous sommes de retour avec André Fufza, professeur en cosmologie à l'université de Namur, pour parler du monde de la recherche scientifique, un monde sous pression, coincé dans un système, pour vous citer, un système qui forme davantage des techniciens et des managers plutôt que des penseurs et penseuses. Alors face à ces pressions, notamment de publication auxquelles doivent répondre ces chercheurs, quels sont les principaux travers dans lesquels ils peuvent tomber selon vous ?
Écoute, ce qui m'inquiète, alors effectivement, ce que j'ai dit, et je le redis parce que la phrase est précise, notre système forme plus des managers et des techniciens que des penseuses, parce qu'il y a aussi une question de biais de genre. Malheureusement, le système tel qu'il est, ben, tu vois que pour performer, en fait, les gens très vite, et je l'ai très vite vu dans ma carrière, si on te donne un cahier de charge et que tu dois performer dans tel indicateur, que ce soit le H-index par exemple, etc., tu vas orienter toute ta carrière pour bien performer dans cet indicateur. Et donc au final, ton moteur n'est plus la quête de la vérité, le partage des connaissances, etc. Ton moteur, c'est le CV et la performance. Donc là, quel genre de profil sélectionnons-nous ? Alors, pour rigoler, mais enfin, c'est à moitié pour rire, je suis un peu cash et je dis que notre système sélectionne des sociopathes carriéristes, et j'en ai croisé dans ma carrière, et puis en fait, bon, écoute, et j'en croise tous les jours. Après ça, quand tu regardes un petit peu, il y a quand même des gens derrière, et donc derrière les sociopathes carriéristes, tu te rends compte que c'est des gens qui se sont aussi emprisonnés dans le système et qui sont peut-être rentrés de bonne foi. J'ai même eu des témoignages par rapport à ça des gens qui te l'ont dit. Donc tout ça n'est pas glorieux. Donc oui, le système, en fait, par ses modes de sélection, ben, on ne peut pas vraiment dire qu'il sélectionne des profils comme l'abbé Pierre ou Mère Teresa, enfin, façon de parler, hein, mais, ou des libres penseuses ou des choses comme ça, etc. Non, fondamentalement, on sélectionne des carriéristes.
Et peut-être pour revenir sur cette question de l'édition et de l'accès à ces articles, de cette monétisation des savoirs, on peut juste évoquer d'abord quelques chiffres. Les hautes écoles suisses, par exemple, ont versé au cours de ces trois dernières années, respectivement, environ 14 millions d'euros, 5,3 millions d'euros et 4,3 millions d'euros aux trois principaux éditeurs scientifiques pour avoir accès donc au contenu de revues prestigieuses. Alors à côté de cela, il y a également un mouvement pour le libre accès aux publications scientifiques depuis une vingtaine d'années. Maintenant, où est-ce qu'on en est et est-ce que c'est une alternative aussi selon vous?
Alors, ici, je vais te donner mon point de vue et tu devras peut-être aller fouiller par ailleurs. Rien n'est gratuit. Il y a toujours bien quelqu'un qui paye quelque part. Pour le moment, quand tu fais de l'open access, c'est toi qui payes ta publication et le lecteur, le lectorat, les lectrices et les lecteurs, ne le payent pas. Donc au final, il y a quand même toujours quelqu'un qui paye. C'est l'exemple que te donnait ton interlocuteur de l'EPFL qui te disait ben « maintenant on paye pour l'open access ». Et donc c'est quelque chose qui est demandé par les institutions comme le FNRS et l'Europe, c'est-à-dire que les articles soient libres d'accès, et donc qui paye, ce sont les labos. Voilà. Donc je pense que là aussi, l'open access, tout le monde s'est engouffré dedans il y a quelques années, etc., pour en fait te rendre compte que au final, le prix des articles avait augmenté, parce que l'open access te coûte plus cher que ce que ne coûtait un abonnement à l'époque. Donc le coût des publications a augmenté, alors que le système, et ça pour te dire aussi, par ailleurs, je suis aussi reviewer, hein, je review des articles, ça aussi c'est tout un truc, c'est toute une... Enfin, allez, c'est tout un devoir et une lourde responsabilité de reviewer les articles, parce que tu as la vie des gens entre les mains, et donc tu dois quand même... Bah, moi, j'essaie toujours de prendre des gants quand je donne des mauvaises nouvelles, parce qu'il y a le facteur humain aussi qui est important, mais bon, parfois, tu dois aussi dire les choses qui vont bien, les choses qui vont pas. Mais bref, là aussi, en tant que reviewer, j'ai vu les choses à pas mal avancer. Alors, je suis reviewer depuis des années pour l'American Physical Society, mais là, j'ai vu des critères... complètement changé au cours des années. Hein. De deux reviewers, on est passé à un. Et maintenant, là, je viens d'en terminer une de revue hier soir, justement. Et ils te donnent 3 jours pour répondre, dire oui ou non si tu le prends. 3 jours calendrier, hein. Pas 3 jours ouvrables, pour dire oui si tu prends ou si tu prends pas l'article. Et puis, tu as 3 semaines pour faire le rapport sur des articles de 30 pages qui sont techniques. Attends, il faut arrêter de déconner, hein, ça commence demain. Enfin, les gens, ils ont peut-être mis 1 an pour faire l'article, toi, tu vas devoir faire le boulot en 3 semaines, en plus de tout le reste, et gracieusement, hein, je ne suis pas payé pour faire ça, et je ne demande pas à être payé, mais là, c'est quand même des contraintes. Voilà. On voit bien qu'il faut que ça vole et qu'ils ont la pression derrière, quoi. Et donc, bah, je suis désolé, mais là aussi, et pourtant ce sont des revues en open access et aussi tout ça, etc. Au final, je trouve que l'open access a été dévoyé aussi comme une manière de faire rentrer des sous dans les grands groupes éditoriaux. Donc honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui serait peut-être mieux, et là je rejoins un peu ce que tu disais tout à l'heure avec mes livres, c'est qu'il faut s'affranchir des grands groupes éditoriaux, et il va falloir en fait recréer des journaux où l'objet social de ces journaux n'est plus la course à la performance, et on n'en sortira pas. C'est la même chose que dans le monde de l'édition. Tu mentionnais tout à l'heure mon roman « L'appel des étoiles », je l'ai fait en auto-édition, aussi en partie en réaction à ce que je voyais dans l'édition scientifique et que tu retrouves dans l'édition culturelle, avec des grands groupes qui monopolisent tout. Donc là aussi, quand tu parles d'open access, beaucoup de revues, ça reste toujours un business qu'il y a derrière.
Et peut-être une dernière question, vous l'avez brièvement mentionné, cette approche des jeunes générations et des jeunes générations de chercheurs, mais vous voyez une différence de comment est-ce qu'ils abordent cette réalité ? Est-ce que vous...
Écoute, depuis une dizaine d'années, enfin au long de ma carrière, certainement depuis une dizaine d'années, j'ai vu des jeunes gens brillants, donc je pense par exemple à mon étudiante en thèse Sandrine qui a aussi été interviewée dans Daily Science, des gens brillants refuser de faire une carrière scientifique, soit même de s'engager dans un doctorat au niveau après la master, soit même refuser de s'engager dans le cycle des post-docs et des choses comme ça, etc., parce que ça correspondait plus à leurs valeurs et que ça permettait pas d'avoir une vie privée saine. Et ça, il faut reconnaître que le poids de tout ça et l'impact de tout ça sur la santé mentale des gens, c'est vraiment très impactant. Alors, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a un gender balance, hein, un déséquilibre de genre à l'université. Alors, les raisons sont multifactorielles, mais c'est au moins une des raisons. Il faut vraiment se remettre en question profondément. Quand tu vois que des gens refusent un métier qui, normalement une thèse de doctorat, pendant 4 à 6 ans, tu vas, outre donner des cours, etc., tu vas avoir l'occasion de te pencher sur un problème de science fondamentale. Par exemple, les modèles d'univers, la question de l'énergie noire ou de la matière noire dans l'univers, ou par exemple, le voyage interstellaire, la génération des ondes gravitationnelles, des choses de science qui sont à la pointe de la connaissance humaine, de l'intelligence de l'espèce, qui sont parmi les problèmes les plus ardus auxquels l'espèce humaine est confrontée, des choses qui nous parlent de nous, de notre position dans l'univers, mais aussi de notre devoir par rapport à la planète. Et donc tout ça, ça passe au second plan parce qu'il faut produire. Alors ben, les gens, ils n'ont pas envie. Tu te rends compte à un moment donné que ben, c'est dommage parce que tout ça, ça reste la mission de la science, ces questions fondamentales, etc. Elles sont émancipatoires pour apprendre les lois de l'univers, etc., il faut se mettre à leur hauteur. Donc, il y a un travail personnel à faire de maîtrise des équations de la physique, de maîtrise des simulations numériques, des techniques expérimentales, etc. C'est émancipatoire pour l'individu, c'est émancipatoire pour la société qui en apprend plus, pour se repositionner par rapport à son action, pour élargir sa vision du monde, pour développer des nouvelles technologies. Donc, fondamentalement, moi, j'adore la science parce que c'est vraiment une émanation de notre liberté et l'expression de notre curiosité. Mais ça, c'est complètement pourri par des arguments mesquins. Il faut faire du chiffre. Je vais peut-être comme ça te donner un autre argument et comme ça aussi... Je pense que le fait que les jeunes refusent pour des questions de valeur, ça fait réfléchir. Mes collègues, ça nous fait réfléchir parce que on se rend compte qu'on n'est plus attractif. Et or, on a besoin de profils scientifiques, même pour des raisons très pragmatiques, hein, la course à la technologie, l'innovation, etc., très pragmatique et mesquin, on en a besoin. Et donc, on va devoir nettoyer et remettre du sens dans notre métier, refaire des conditions de travail qui sont acceptables. Et j'espère qu'on ne le fera pas en greenwashing, qu'on va vraiment écouter ce que les gens nous disent et donc accepter de laisser tomber et peut-être de recréer des nouveaux outils. Alors, on parlait des journaux tout à l'heure, mais peut-être qu'il faut refaire des journaux en se les réappropriant et en les déprivatisant, en leur donnant une autre mission. Voilà. Je pense que le fait que les jeunes refusent, ça va nous faire réfléchir, ça va faire évoluer. On a besoin. Enfin, la curiosité qui est le moteur de la science, c'est profond, c'est propre à l'espèce humaine. Ça sera toujours là. Et la société en aura toujours besoin, sauf si elle tombe dans la barbarie. Et donc, je suis positif. Je pense que toute cette évolution-là, cette réaction-là, va faire bouger le système. Est-ce que le système aura le courage de faire les renoncements qu'il faut? Ça, je n'en sais rien, mais je suis quand même positif sur le fait qu'à très court terme, on va se rendre compte qu'il va falloir faire, faire un gros rétropédalage.
Mais espérons que ces changements aient bientôt lieu. Alors je rappelle, André Fusa, vous êtes professeur à l'université de Namur. Vous enseignez notamment la cosmologie et la gravitation relativiste. Vous êtes également l'auteur de plusieurs livres. Donc vous pourrez retrouver les références sur le podcast de radio.be, radio.fr. Encore merci.
Merci Thomas.